Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio de la Paix pour cette première édition de ce mardi 9 avril 2024. À la une de ce 7h, le renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France était au centre des échanges hier entre le président Alassane Ouattara et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, reçu en audience. Et puis à Daoukro, les membres des comités de paix en médiation ont été formés par le NDI dans le cadre du projet Cordial. Nous y reviendrons dans cette édition. Et hors de nos frontières, au Burkina Faso voisin, l'armée reçoit une douzaine de drones turcs pour la lutte antiterroriste. Pour ce qui concerne les unes de vos journaux, Aoussi Potin se chargera de les parcourir. Pour vous en donner un point, ce sera dans la revue des titres. Et dans l'invité de la rédaction pour terminer, on parlera des répercussions de l'explosion du cours du cacao sur le marché international, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ça sera avec Dr Guillaume, enseignant géographe à l'université Jean-Laure Rougnon-Guédé de Daloa. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu à sa résidence le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. C'était hier lundi au centre des échanges, le renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte-rendu de cette rencontre avec Mel Emmanuel.
Le partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France était l'un des sujets centraux de cette rencontre entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a tout de suite mis en avant les avancées économiques réalisées par la Côte d'Ivoire grâce à cette relation bilatérale. Stéphane Séjourné.
Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises.
De son côté, le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de rappeler la proximité entre les deux pays et a également exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire à l'endroit de la France.
Nous sommes très 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 heureux d'accueillir M. le ministre et de dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement, et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer.
Avant d'être reçu en audience par le président de la République, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a rencontré la diaspora française en compagnie de son homologue ivoirien, Léon Adam.
Merci à vous, Mel Emmanuel. On parle maintenant d'identification. Les services d'état civil de la mairie de Grand Bassam seront désormais équipés du logiciel d'état civil CityWeb. Le maire de la cité balnéaire a reçu officiellement hier lundi les supports numérisés. Cette action de l'ONESI, entendez l'Office national de l'état civil et de l'identification, s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet de modernisation de l'état civil à travers l'utilisation de ce nouveau logiciel national, nous apprend Jean-Claude Mabéa.
Les raisons du choix de la commune de Grand Bassam pour cette phase pilote ont été expliquées par le directeur général de l'ONESI, Ago Christian Kodia.
Grand Bassam parce que déjà c'est une des premières capitales de la Côte d'Ivoire et aussi les registres les plus anciens qui ont besoin d'être numérisés se trouvent à Grand Bassam. C'est une ville historique, mais aussi vous voyez que Grand Bassam est en bordure de mer. Et donc quand on parle de bordure de mer, on parle surtout de l'humidité, de ce qui peut affecter plus facilement du papier. Et donc il était important pour nous de nous confronter dans la phase pilote sorte, à ce qu'il y a de plus difficile et à ce qu'il y a qui peut nous permettre de voir le maximum d'actions à faire pour que nous puissions être sûrs que ce que nous allons déployer soit vraiment de meilleure qualité. Donc nous allons très rapidement déployer pour couvrir tous les centres d'état civil du pays.
Après réception du logiciel, Jean-Louis Moulot, le maire de Grand Bassam, s'est félicité du choix de sa commune pour cette phase pilote du projet avant de vanter les performances et la célérité de cet outil dans le traitement des actes d'état civil.
Bien, nous sommes ravis d'avoir été retenus pour la phase pilote. Les bénéfices sont nombreux pour notre ville. D'abord, un renforcement des capacités des agents de l'état civil, une familiarisation aux nouvelles technologies. Ensuite, ça nous permet d'avoir une plus grande célérité, une plus grande efficacité dans le service aux usagers. Aujourd'hui, à Grand Bassam, les actes d'état civil sont délivrés dans un délai maximum d'une heure, de sorte que les usagers n'ont pas à patienter. En toute sécurité également, puisque les actes sont numérisés et ça limite les risques d'erreurs humaines ou de manipulation. Dans le cadre de ce partenariat, nous entendons aller plus loin avec la dématérialisation des demandes d'actes également, qui est la phase suivante.
Ce sont au total 250 centres d'état civil du pays qui sont couverts par ce projet.
Un atelier de formation des membres des comités de paix en médiation s'est tenu la semaine dernière à l'initiative de l'Institut National Démocratique NDI dans le cadre du projet Cordial. Cet atelier vise à renforcer la résilience et la réconciliation par le rapprochement des communautés dans les zones affectées par les violences politiques de 2020 et ce, afin donc de prévenir de nouvelles violences au cours des élections futures. Plus de détails sur l'activité avec notre correspondant sur place, François Kram.
Les membres ont été instruits sur la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, les techniques de médiation, les qualités d'un bon médiateur et bien d'autres modules en lien avec la gestion pacifique des conflits. Hervé Thiapo, associé des programmes NDI d'Aokro.
Actuellement, c'est vrai, il y a la calmie, mais il faut préparer les gens aux différentes éventualités. On ne sait jamais.
Des participants reviennent sur le sens de leur engagement.
Je suis Yakwe, coordinateur des communautés d'Aokro. Tout le monde a été témoin d'Aokro était complètement paralysé. C'est pourquoi on s'engage à le faire. Vaut mieux prévenir que guérir. On ne va pas reculer.
Kwasi Kwaku, notable à la cour de Nana Kwame Kofi, jeune chef de village de d'Aokro. Il est bon de prendre des dispositions pour que ce type de conflit qu'on a croisé ne survienne plus entre les groupes.
Les femmes en ont souffert, selon Lucie Kwaku.
Je suis dans le comité de paix parce que généralement, quand il y a les conflits, les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. D'abord, elles ont leur mari au front. Quand elles ont des enfants à bas âge, elles ne peuvent rien faire, ne peuvent pas fuir pour les laisser. Surtout, la situation la plus compliquée, c'est lorsqu'elles sont en situation de grossesse.
Il y a aussi les personnes en situation de handicap.
Madame Tapsoua Marie-Claude, vice-présidente chargée des personnes en situation de handicap. D'abord, le handicap, vous savez que c'est une personne en situation de vulnérabilité, un problème de mobilité, et qu'il y a une situation de conflit. Mais nous, on fait comment? Nous, on paye lourd.
Un programme financé par l'USAID. François Kra, d'Aokro, Radio de la paix.
Et après d'Aokro, on prend la direction de Boaké où la nuit du destin célébrée par la communauté musulmane dans la nuit de vendredi à samedi dernier s'est faite autour d'une conférence sur l'union et la foi à la grande mosquée de la ville. Élus locaux et autorités administratives étaient présents à cette cérémonie religieuse. Joseph Assalé, notre correspondant régional, y était également, son compte rendu.
À la lumière de son exposé, Oustaz Adama Kourouma, imam de la mosquée principale du quartier commerce de Boaké, a mis en relief les valeurs d'union, de foi et de cohésion devant caractériser une nation.
Une grande nation ne peut pas se bâtir sur du sable. Elle ne peut se bâtir que sur des valeurs telles que la foi, telles que l'union. Ce sont ces deux valeurs qui sont les socles de tout développement, de tout progrès de toutes les nations. La dernière CAN est une preuve manifeste vraiment de cette situation pour dire que nous sommes sur le bon chemin. Parce que avec la victoire, il y a eu vraiment une union. Et là, on a vu les barrières s'estomper. Les barrières ethniques, tribales, religieuses. Et nous avons vu une véritable nation en train de s'éclore. Alors vivement que des événements comme ça nous permettent de retrouver l'unité.
Au nom d'Amadou Koné, maire de Boaké, le docteur Paul Dakuyo a plaidé pour que les imams dans leur prosternation nocturne élèvent des prières envers Allah, le Dieu Tout-Puissant, afin que la Côte d'Ivoire continue de vivre dans la sécurité et la paix. Assurance donnée par par l'imam Idriss Sidibé, secrétaire général du COSIM de la région de Gbeke.
Plus de 400 imams sont présents ou représentés ici aujourd'hui à la grande mosquée de Gbeke pour prier pour le pays, prier pour le chef de l'État, prier pour monsieur le maire, Kone Amadou et tout son staff, prier pour le conseil régional d'avoir du Panama, prier pour la ville de Gbeke.
À l'occasion de la nuit du destin ou encore Laylat al-Qadr à Gbeke, l'intégralité du Coran a été lue 3 fois en vue de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Joseph Assalé, Gbeke, Radio de la Paix.
Et on revient à Abidjan où le Cercle des Ébonis, une organisation regroupant les lauréats du prix Ébonis, a procédé à sa sortie officielle le 5 avril dernier dans un réceptif hôtelier du plateau à Abidjan. Cette cérémonie parrainée par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été également l'occasion de rendre hommage aux membres fondateurs de l'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Didier Blé pour le compte-rendu.
Regroupant les différents lauréats du prix Ebony organisé par l'UNJCI, le Cercle des Ebony a le mérite d'exister, nous dit Yao Noël, membre fondateur et premier président de l'UNJCI.
L'action du jeune confrère Claude Franck Abouk et ses amis est salutaire. Merci à eux, tous mes voeux de succès à ce Cercle des Ebony pour l'excellence et l'épanouissement du journalisme ivoirien.
Zoro Epiphane Balo, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et parrain de la cérémonie, a au cours de sa communication invité les journalistes et partant les populations à être des vecteurs de démocratie et de transparence.
Bien que certains indicateurs de gouvernance soient à des niveaux acceptables, d'autres en revanche restent encore loin en arrière des valeurs moyennes ou des valeurs médianes. Et l'État de Côte d'Ivoire est conscient que des efforts additionnels doivent continuer de se poursuivre.
Une adresse reçue positivement par le président du Cercle des Ébonis, Claude Franck About, qui se dit heureux d'avoir mis sur pied cet étalage de journalistes expérimentés.
Une bonne presse et une bonne gouvernance. On a le même but, même objectif. On veut regrouper tous ceux qui ont été consacrés ébonis ou super ébonis depuis 30 ans, les valoriser et les promouvoir. Mais on veste aussi une veille stratégique pour la société ivoirienne. On a beaucoup de potentialités, beaucoup de intelligence, on va mettre ça ensemble pour être utile à la Côte d'Ivoire.
Cette cérémonie s'est refermée par l'intronisation du président du Cercle, mais aussi des distinctions remises à des hommes de médias et certains partenaires.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, l'armée du Burkina Faso a reçu hier lundi une 12aine de drones de combat livrés par la Turquie afin de lutter contre les groupes terroristes. Selon une note de la présidence burkinabé, ces drones des Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci ont été remis à l'armée par le chef du régime militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une cérémonie filmée et diffusée par la présidence. Le chef du régime militaire burkinabé a remercié à son tour le président turc Recep Tayyip Erdogan pour ce partenariat sain et sincère. Et ici en studio, on retrouve Aoussi Potin qui s'est chargé de parcourir pour vous les unes de vos journaux pour vous en faire un point. C'est dans la revue des titres. Bonjour Potin.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Le week-end dernier, le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, était dans la région de la Niébitiassa à l'occasion de la seconde édition de la fête de la Renaissance initiée par son parti. Autre sujet clé abordé lors de son meeting, l'affaire dite du braquage de la BCAO lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ridicule affaire du vol de la BCAO, Gbagbo fait le grand déballage, titre à sa une le quotidien d'Abidjan, qui propose à lire ce qu'il nomme un document explosif. Le tabloïd Le Temps lui parle d'un complot grotesque et d'un prétendu braquage de la BECAO avec à sa une le titre suivant, le document qui rétablit toute la vérité. La ridicule affaire dite du vol à la BECAO et dans les banques commerciales renchérit pour sa part la voix originale. Pour le quotidien Le Sursaut, au-delà des différents sujets abordés par le président du PPSCI lors de ce meeting, il faut surtout y percevoir sa volonté de rempiler à la tête de l'État. D'où son titre de une, Laurent Gbagbo refuse la retraite politique. Et l'Inter d'avertit qu'après la fête de la Renaissance à Agboville, organisée par le PPACI, et bien le parti au pouvoir, le RHDP, lui, prépare sa réplique au PPACI. Autre sujet à la une de nos journaux, l'audience accordée par le chef de l'État ivoirien au ministre des Affaires étrangères de la France, Sur le sujet, l'expression titre ce matin, croissance infrastructure, la France salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Et le matin, de proposer deux extraits de propos, d'abord de l'hôte de la Côte d'Ivoire, sa voix Stéphane Séjourné, et nous le citons, qui s'adresse au président Ouattara. Vous avez organisé l'économie ivoirienne de manière remarquable. Fin de citation. Et le président Ouattara a retour de répondre, citation, je suis confiant que les excellentes relations avec la France continueront de se renforcer. Fin de citation. Voici donc le titre de une du quotidien Le Matin. Et sur le sujet Fraternité Matin de titré, mettant en avant surtout parmi les sujets abordés la sécurité, la menace sécuritaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Citation, Ouattara, nous y travaillons. Et terminons donc avec notre voix sur ce sujet. Notre voix donc qui, rapportant des propos du président Ouattara toujours sur le volet sécuritaire à son autre titre. Et nous citons, nous avons des soucis à nos frontières nord. Fin de citation.
Merci à vous, Aoussi Potin, pour cette revue des titres. Rendez-vous est déjà pris pour l'édition de 8h pour le même exercice toujours. L'invité de la rédaction pour refermer ce journal est un spécialiste des questions agricoles, géographe et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurouillon-Guédé de Dalloa. Docteur Guillaume Guessant évoque les répercussions de l'explosion du cours du cacao sur le marché international, notamment en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il répond aux questions d'Ousmane Kanté dans cet entretien à suivre.
Docteur Guillaume Guessant, bonjour.
Bonjour.
Depuis bientôt un an maintenant, le cours du cacao a explosé, allant jusqu'à atteindre 10 000 dollars la tonne aujourd'hui sur les marchés internationaux. Tout d'abord, quels sont les facteurs qui expliquent cette flambée du cours du cacao ?
Merci déjà. Il faut dire que les deux pays principaux producteurs de cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire à hauteur de 45% de part de marché, et le Ghana, à hauteur de 15% de part de marché, connaissent des situations climatiques, on va dire, instables, et qui perturbent les prix sur le marché, et donc la disponibilité du produit sur le marché. Alors, la demande étant forte, évidemment que les prix vont grimper. Et toute cette situation, que ce soit en Côte d'Ivoire et au Ghana, perturbe fortement donc la disponibilité de fèves de cacao sur le marché mondial. Voilà le principal facteur qu'annoncent, on va dire, tous les observateurs du cacao en ce qui concerne donc cette hausse du prix du cacao.
Au regard donc de ces raisons que vous évoquez, la Côte d'Ivoire, on le sait, a opté pour la vente par anticipation. Est-ce qu'elle doit revoir sa copie, justement, en matière de mécanisme de commercialisation, eu égard à ces changements qui sont intervenus ?
Alors, nous, en tant qu'observateurs, on va dire, de l'économie cacaoïère, il est difficile pour nous de dire que si la Côte d'Ivoire doit revoir sa copie en ce qui concerne cette stratégie donc, de vente anticipée. L'État lui-même a pris soin, à travers donc le Conseil Café Cacao, a pris soin de dire que la vente anticipée des prix du cacao permet donc de garantir aux producteurs une stabilité des prix lorsque le prix soit chute ou il augmente. Alors donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette stratégie de vente anticipée, il y a l'envers et le revers de la médaille. Alors nous sommes dans une situation qui entraîne donc une hausse du prix du cacao sur le marché mondial et donc qui normalement invite les producteurs à réclamer une meilleure revalorisation. Mais attention, comme on le dit, c'est une vente anticipée. C'est-à-dire que le contrat a été conclu bien avant donc de livrer la marchandise aux clients. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se dédire dans le contrat de commercialisation avec ses partenaires avec lesquels il a vendu de façon anticipée les fèves de cacao? Voilà le dilemme dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un jeu économique où les prix vacillent. Peut-on demander à l'État de changer de stratégie? La stratégie que l'État va adopter peut-elle garantir aux producteurs des meilleurs prix rémunérateurs sur de très longues durées? Nous, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Alors, c'est le comportement du marché qui détermine les réalités économiques en ce qui concerne particulièrement ici le cacao. Nous sommes dans la situation où les prix ont augmenté à cause des aléas climatiques. Du coup, les producteurs pensent que leur produit s'achète à meilleur prix sur le marché international, il faille qu'ils en bénéficient. Ça, c'est ce qui est normal.
Alors, quand on sait qu'on est parti pour durer dans ces changements, dans ces aléas climatiques, comme vous le dites, entre le principe de stabilisation et le mécanisme de libéralisation, quelle serait donc la meilleure option pour la Côte d'Ivoire ?
Alors, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir en matière de cacao, c'est que les principaux acteurs, que sont les producteurs, doivent pouvoir avoir la connaissance et la maîtrise totale de l'environnement du cacao, y compris le système de définition des prix, y compris de la production à la fixation des prix. Il se trouve que nos producteurs en Côte d'Ivoire et généralement dans les pays producteurs ne maîtrisent pas toute la chaîne de valeur, de sorte qu'ils sont pris dans l'étau par les grands groupes internationaux. Alors, que peut-il défendre dans cette atmosphère où ils sont entre griffes très faibles ou très petits? Ce que nous gagnerons à faire en tant que pays producteur, notre stratégie doit reposer sur donc la maîtrise des prix de façon durable.
En quoi faisant justement?
Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, il est arrivé un moment où la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs de cacao au monde, ont pu geler la production et cela a provoqué une hausse du prix du cacao sur le marché international. Quand vous êtes producteur d'un bien, vous devrez être maître de ce bien à tous les échelons. Ce n'est pas le cas du cacao pour les pays qui produisent, puisque vous savez bien que les prix sont déterminés très loin de nous. Donc nous ne maîtrisons pas tous les échelons de définition donc des prix. Nous ne faisons que produire. Ce qui fait que nous dépendons finalement de ceux qui fixent les prix.
Merci de nous avoir accordé donc cet entretien, Dr Guillaume Guessan.
Merci à vous également.
C'était l'invité de la rédaction, Dr Guillaume Nguessan, géographe et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Nyongédé de Daloa, qui répondait aux questions de Ousmane Conté. C'est la fin de ce 7h. Voici le rappel des titres. Le renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France était au centre des échanges hier entre le président Alassane Ouattara et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, reçu en audience. Et puis à Daoukro, les membres des comités de paix en médiation ont été formés par le NDI dans le cadre du projet Cordial. Hors de nos frontières, au Burkina Faso voisin, l'armée a reçu hier une douzaine de drones turcs pour la lutte antiterroriste. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.